Radio G.
101.5 FM.
Pierre Benoît vous présente la chronique de Clic-Clac Topette. Le 7 août 1620, le roi de France Louis XIII, père du futur roi Soleil, marche droit sur Sorge avec près de 10 000 hommes. Depuis presque 10 ans, le roi se bat pour affirmer son autorité royale et préserver sa couronne. Mais il se bat contre un ennemi interne. Il se bat contre sa propre mère, Marie de Médicis. Celle-ci, régente après la mort de son mari, le célèbre roi Henri IV, s'accroche coûte que coûte à son pouvoir. Écartée de la cour de France, impopulaire auprès des nobles et du peuple, cette femme n'en finit plus de se dresser comme un obstacle devant son fils, Louis XIII. La querelle matricide va connaître un ultime rebondissement militaire, ici en Anjou, dans les plaines du Moulin Marcille, à côté de Sorge. Aujourd'hui, des maisons, des routes, un décathlon, mais rien n'indique ce qu'il s'est vraiment passé et comment le combat s'est conclu. Découvrez avec Clic-Clac l'incroyable et surprenant issue de cette bataille interne qui aurait pu voir la France se déchirer dans une guerre civile fratricide en ravivant les guerres de religion.
Bonjour, moi c'est Clic-Clac. Je suis curieux de tout et j'aime l'aventure. Un jour, dans le grenier, j'ai découvert une très vieille carte postale en noir et blanc. Je l'ai retournée et en lisant ce qui était écrit, c'est comme si j'avais voyagé dans le temps. Depuis, je prends ma bicyclette, mon appareil photo et j'explore l'Anjou pour découvrir des lieux, des histoires surprenantes pour créer mes propres cartes postales. Je prends tellement de photos que tous les copains m'appellent Clic-Clac. Ils disent que c'est le bruit de mon appareil. Du coup, moi je dis que c'est aussi le bruit du temps et des histoires qui passent. Aujourd'hui, direction Sorge !
Clic-Clac est bien embêté. Il est dans sa chambre, assis à son bureau et ne sait vraiment pas quoi faire. Madame Pascot, sa professeure d'histoire, lui a demandé de réaliser un exposé sur la bataille d'un roi de France au choix. Mais comme elle connaît Clic-Clac et sa passion pour l'histoire, elle a d'abord laissé tous les autres dire quelle bataille ils allaient prendre, et ensuite elle lui a proposé de garder secret son choix pour la surprendre le jour de la présentation. Le problème, c'est que toutes les grandes batailles sont déjà prises. Marignan, Poitiers, Azincourt, et même les batailles de Napoléon qui n'étaient pas roi. Il est donc là, la tête entre les mains, à se demander comment il va faire pour trouver une bataille à raconter.
Je vais aller voir au grenier. Il y a plein d'encyclopédies d'histoire. Je pourrais peut-être trouver quelque chose d'intéressant.
Il quitte sa chambre, s'engage jusque dans le fond du couloir et commence à monter les étages. L'escalier n'est pas très rassurant. Il craque dans tous les sens et plus Clic-Clac progresse, plus il sent et entend le vent siffler par le toit. À chaque marche, il doit éviter les toiles d'araignée qui se font de plus en plus présentes. En haut, il arrive enfin devant la porte qui donne sur le grenier. Il tourne la poignée et rentre dans les combles. Là, plein de vieilleries, des cartons entassés, des meubles anciens et poussiéreux, parfois recouverts de drap blanc qui ont jauni par le temps. Le vent souffle encore plus fort par les carreaux brisés de la petite lucarne du toit. Clic-Clac est à la fois curieux de tout soulever pour découvrir les objets qui s'entassent ici, mais il est aussi un peu angoissé de se retrouver seul dans un grenier abandonné. Il s'approche d'une grande bibliothèque en bois sur laquelle il y a des gros livres rouges. Il en saisit un. C'est celui sur lequel est marqué « Histoire de France en lettres dorées ». Il ouvre le bouquin, mais il sursaute. Une carte postale s'est échappée de l'ouvrage.
Qu'est-ce que c'est? Oh, une vieille carte postale en noir et blanc. J'adore!
Dessus, il peut lire « Sorge, inondation 1910, l'école libre inondée par l'Othion ».
Sorge? C'est où ça? C'est quoi une école libre?
Il semble réfléchir.
Je vais suivre l'Othion sur une carte pour trouver où c'est, Sorge. C'est incroyable cette histoire d'inondation!
Le voici qui dévale du grenier avec la carte postale en main en train de lire la correspondance à l'arrière. Il attrape son béret, son appareil photo, sort de la maison, puis enfourche son vélo en laissant totalement tomber les recherches pour son exposé. Mais il sait pas encore que c'est à Sorge qu'il va trouver un sujet croustillant à présenter devant Madame Pascot. Un peu plus tard, Clic-Clac arrive donc devant le panneau des Ponts de C.
Les Ponts de C? Je pense arriver à Sorge.
Il rejette un coup d'œil sur sa carte.
Pourtant je suis bien au bon endroit. C'est louche.
Il s'engage quand même dans le village. Sur la petite place centrale, il aperçoit un homme en habit de travail qui balaye.
Bonjour monsieur, est-ce que je suis bien à Sorge?
Bonjour petit, Sorge c'est ici même. Je suis le cantonnier de la commune.
Et vous savez pourquoi c'est pas marqué Sorge sur le panneau à l'entrée?
Bien sûr, ça fait plus de 200 ans que Sorge est rattaché à la commune des Ponts de Cé.
Je comprends mieux, oui. Oh, j'ai trouvé ça dans mon grenier. Je crois que c'est l'école libre de Sorge.
Clic-clac lui tend la carte postale qu'il a retrouvée chez lui avec l'école inondée.
Hé, hey, petit, j'ai la même chez moi. Ma grand-mère y a été dans cette école. C'était que pour les filles. Dans le temps, en 1900, il y avait les écoles libres et des écoles laïques mixtes. Mais il y avait coutume de pas mélanger les genres. Donc les filles allaient à l'école libre et les garçons à l'école laïque.
Un coup de vent souffle dans les tilleuls de la place et les dernières feuilles tombent sur eux.
Bon, si, j'ai encore de quoi m'occuper. Est-ce que tu as d'autres questions avant que je retourne balayer ?
Oui, sur la carte postale, il y a de l'eau dans la cour de l'école. Pourquoi ?
Les crues de l'Othion, bien sûr. Depuis les années 70, il y a une digue qui retient les montées d'eau. Mais avant, ça posait problème presque chaque hiver. Surtout lors de la crue du siècle, en 1910. Dans le temps, tous les champs autour étaient inondés. Et on faisait même du patin à glace dessus.
Oh, j'aurais bien aimé essayer.
Petit, tu connais la spécialité de Sorge ?
Non. C'est quoi ?
La grenouille. On en pêchait plein dans l'Othion avant. Pendant les fêtes, il y avait des courses de grenouilles. On en mettait dans les brouettes et fallait arriver jusqu'à la ligne sans que les grenouilles s'échappent. On disait qu'un bon pêcheur pouvait...
Alors que le cantonnier de Sorge part dans un discours inspiré sur les grenouilles, Clic-Clac se rappelle qu'il doit préparer un exposé sur une bataille, celle d'un roi de France. Et il sursaute d'un coup.
Désolé, monsieur, je dois rendre un exposé pour l'école.
Si c'est un exposé sur les grenouilles, je peux t'aider.
Non, c'est sur les rois de France.
Ça tombe bien alors. Il y a deux rois qui sont venus ici.
Vraiment ?
Louis XIV.
Louis XIV ?
Pour manger avant de reprendre la route de Nantes.
Ah. Oh.
Et son père, Louis XIII.
Pour gagner la course de grenouilles ?
Pour se battre contre Marie de Médicis.
Catherine.
Quoi ?
C'est Catherine de Médicis.
Non, je crois que c'est Marie de Médicis.
Marie de Médicis ?
Oui, j'en suis presque certain. Va voir dans le bourg de Trélazé à côté. Il y a un étudiant en histoire qui pourrait t'aider, je pense. Il s'appelle Théophane et il passe beaucoup de temps à la bibliothèque.
Merci, monsieur, pour toutes ces informations. À plus tard !
Et Clic-Clac remonte en selle pour suivre sa curiosité. En pédalant, il envoie valser toutes les feuilles que le cantonnier venait de rassembler.
Sacré petit gars, lui.
Clic-Clac pose son vélo à l'entrée de la bibliothèque et pénètre dans le bâtiment. Sur une table, coincée entre les rangées de livres, il y a un jeune homme occupé à consulter d'anciens ouvrages.
Ça doit sûrement être lui, puisqu'il n'y a personne d'autre.
Il se rapproche et l'interrompt dans son travail.
Bonjour, est-ce que c'est vous, Théophane, l'étudiant en histoire ?
Lui-même, que veux-tu, petit ?
Je m'appelle Clic-Clac et j'aimerais avoir des informations sur les Médicis pour comprendre qui était Marie et qui était Catherine.
Ok, je veux bien, mais je dois d'abord te dire que ma spécialité à moi, c'est l'Égypte ancienne et que je dois absolument rendre un dossier avant le week-end.
Moi aussi, je dois rendre un exposé pour l'école.
Bon, commençons alors. Les Médicis, c'était une famille italienne de Toscane riche et très puissante. Ils prospéraient dans le commerce et la finance. Pour te dire, ils possédaient près de 10 banques, une sur chaque place forte de l'Europe du XIVe siècle. Bruges, Paris... Et comme l'argent appelle le pouvoir et que le pouvoir a besoin d'argent, les membres des Médicis se sont progressivement fondus avec les familles royales européennes. C'est comme ça que Catherine de Médicis, petite fille de Pietro, s'est mariée avec Henri, deuxième fils de François Ier. On est en 1533. À la mort du roi de France, le premier fils est mort, donc Henri devient Henri II et Catherine, sa femme, devient reine. On est en 1547.
Ah, je vois! Et Marie de Médicis, ça devait être sa fille alors?
Non, c'est une de ses cousines éloignées. Le mari de Catherine meurt et tous ses enfants aussi. Il ne reste comme héritier que Henri IV, le mari de sa fille Marguerite. Mais dès qu'Henri IV devient roi, il divorce de sa femme pour se remarier avec une cousine très éloignée de Catherine et qui s'appelait Marie de Médicis. On est en 1600.
Complexe. Pourquoi avoir fait ça?
Pour accroître son pouvoir. Marie est la petite fille de l'empereur romain germanique.
Les gens se mariaient n'importe comment à cette époque.
C'est vrai ça, Clic-Clac. Ils se comportaient comme des enfants aussi. Surtout cette Marie de Médicis.
Comme tout le monde le sait, Henri IV fut assassiné d'un coup de couteau en pleine poitrine le 14 mai 1610. C'est donc sa femme, Marie, qui va obtenir la régence du royaume en attendant que son fils, Louis XIII, soit en âge de régner. L'assassinat d'Henri IV va avoir des conséquences jusque dans les plaines du Moulin Marcille à Sorge, 20 ans plus tard, le 7 août 1620. Marie était une épouse possessive et jalouse. Elle demandait beaucoup d'attention de la part de son mari et ne supportait pas ses maîtresses. Il faut dire qu'Henri IV était un grand séducteur et ne se cachait absolument pas de sa passion pour les autres femmes, même en présence de la sienne. Mais il faut dire aussi que Marie tenait à affirmer son rang avec peut-être un peu trop d'engagement. Devenir reine de France était inattendu pour elle, et elle en oubliait presque que c'était à son fils que la couronne revenait maintenant. Ce qui a obligé Louis à se manifester avec insistance pour faire valoir son droit.
Louis XIII fait assassiner le conseiller de sa mère, alors qu'il a que 16 ans ?
Pas le choix, les tensions sont très fortes à cette période. Les guerres de religion entre catholiques et protestants ne sont pas vraiment éteintes. Marie est très impopulaire auprès du peuple et des nobles, surtout à cause de ses proches conseillers qui viennent d'Italie. Louis XIII est contraint de s'affirmer avec force.
De vrais enfants.
Et ce n'est que le début. Louis XIII décide d'exiler sa mère à Blois, mais Marie, elle s'échappe et lève une armée contre son fils. À ce moment, le roi préfère calmer le jeu et concède Angers et Chinon à sa mère. On est en 1619. Et les choses auraient pu s'arrêter là, mais la reine-mère trouve insolent l'attitude de son fils, qui fait libérer le prince de Condé, que Marie avait enfermé, donc ça repart. Mais cette fois, les deux armées se rencontrent vraiment... du côté de Sorge, je crois.
À Sorge ?
Oui, c'était le 7 août 1620, mais je ne saurais t'en dire plus. Oh, regarde l'heure. Si ça ne te dérange pas, clic-clac, je dois vraiment retourner dans mes bouquins.
Le 7 août 1620, une bataille du roi de France à Sorge ? Oh, c'est parfait pour mon exposé ! J'y retourne, voir si je peux trouver des indices.
Il sort de la bibliothèque, tout excité. De retour à Sorge, clic-clac constate que le cantonnier n'est plus là. En fait, il a la drôle de sensation que le village est devenu... fantôme. Il a le sentiment d'avoir remonté le temps jusque dans le Moyen-Âge.
Je suis sûr qu'il y avait du goudron sur cette roue tout à l'heure.
Psst, petit, tu t'intéresses à la drôlerie de Sorge ?
Une drôle de femme vient de sortir de l'auberge du Grenouillard. Elle ressemble presque à un fantôme.
Je t'ai demandé, est-ce que tu t'intéresses à la drôlerie de Sorge ?
Vous voulez parler de la bataille du 7 août 1620 ? Pourquoi dites-vous la drôlerie de Sorge ?
Parce que c'était drôle ! J'y étais, je peux te raconter ce qui s'est passé ce jour-là.
Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas pu y être. C'était il y a 400 ans.
La femme se précipite soudain sur Clic-Clac. Et du bout de son nez, collé contre le sien, lui demande avec insistance...
Veux-tu que je te raconte la drôlerie de Sorge, oui ou non ?
Oui, s'il vous plaît.
Et elle commence.
Sorge était un village paisible et sans histoire. Les villageois étaient loin d'imaginer les événements qui allaient s'agiter dans la plaine du moulin Marcille ce jour du 7 août 1620. Des bruits couraient, disant que la reine-mère, ancienne régente du royaume, levait une armée pour reprendre à son fils le pouvoir qu'elle estimait devoir conserver. Alors que les gens murmuraient sur la place devant l'église, des gamins arrivèrent tout essoufflés pour confirmer la nouvelle. « Les troupes du roi arrivent à Sorge !» En un rien de temps, les gardes françaises du roi Louis XIII et son régiment de Champagne investirent Sorge. Deux canons furent disposés sur la place. Les habitants se calfeutrèrent chez eux et se préparèrent à essuyer une horrible bataille. Le village était sans bruit, que les murmures des soldats entre eux. Soudain, d'effroyables détonations retentirent dans le hameau. Une première fois, puis une deuxième fois, des cris retentirent en écho au coup des deux canons. Une troisième fois encore, une charge fut lancée. Mais là, les cris changèrent de tonalité. Il ne s'agissait plus de cris de douleur ou de blessure, mais des cris de peur et de fuite. Les habitants sortirent tranquillement leur tête de leur cache et purent observer les troupes de Marie de Médicis qui s'échappaient à toutes enjambées vers Angers, avec leur chef en tête qui courait le premier dans cette direction.
Après cette débandade humiliante, Marie est définitivement affaiblie et se voit contrainte de signer la paix avec son fils. Là encore, un grand nom d'histoire vient s'adosser à l'Anjou, puisque c'est Richelieu qui va mener les négociations entre les deux belligérants au château de Brissac. Mais si la paix est signée le 10 août à Angers, Marie n'aura de cesse de conspirer contre son fils. Curiosité de l'histoire, ces trois personnages, Marie, Louis XIII et Richelieu, mourront tous les trois presque dans la même année. Clic-clac se retourne et la femme a disparu. D'ailleurs, l'auberge a disparu.